France Culture.
Bonjour Hélène Darroze.
Bonjour.
On se retrouve pour le dernier épisode de notre série à voix nue, chez vous, près de votre restaurant Marsan. On a parlé hier de ce qu'est qu'être une femme au travail, en cuisine, dans la vie, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de femmes chefs, en tout cas pas à ce niveau-là. Et je voulais qu'on parle aujourd'hui de vos multiples engagements, parce que vous êtes une cuisinière, vous êtes une chef d'entreprise, mais vous avez aussi d'autres engagements qui traversent d'ailleurs votre vie professionnelle. Je crois que vous avez créé avec Laetitia Hallyday, qui a adopté, comme vous, deux petites filles au Vietnam, une association qui s'appelle La Bonne Étoile, et vous avez voulu quand même vous impliquer dans ce pays que vous avez rencontré, que vous avez découvert, qui vous a inspiré, notamment aussi pour votre cuisine. Vous avez réinterprété le feu qu'on mange là-bas, et vous avez rencontré un pays, rencontré vos filles, et vous y êtes retourné.
Oh oui, bon ça, retourner, oui. Bien, c'est même, il y aurait pas eu la Bonne Étoile, on y serait retourné quand même, et on y retournera encore. C'est vrai qu'au départ, la Bonne Étoile, ça a commencé. On s'est engagé auprès de certains orphelinats, ou certaines écoles, pas que des orphelinats, au Vietnam. Mais après, ça aussi, on a fait des choses en Afrique, en France. Voilà, ça s'est pas cantonné au Vietnam. Mais oui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, autant Laetitia que moi, on a eu envie de rendre un peu ce que ce pays nous avait donné. Voilà, tout simplement.
Il y a d'autres associations dans lesquelles vous êtes engagé, des cercles aussi de parole, des cercles aussi de parole.
Alors,
de business ou de femmes.
Oui, alors, oui, bien sûr, dès que je peux, et dès qu'on me sollicite et que ça fait sens pour moi, je le fais, mais je le fais pas assez. Pour moi, ça, ce sera une fois que j'aurai, parce qu'un jour, j'arrêterai bien ce métier, j'arrêterai de travailler comme tout le monde, et je pense que j'aurai là une vraie deuxième vie dans l'humanitaire, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Donc pour moi aujourd'hui je le fais pas assez, j'aimerais le faire un peu plus, mais il y a d'autres, je suis aussi la marraine d'une école en Afghanistan à travers l'association Afghanistan Libre d'une amie à moi. C'est pour les femmes, pour l'émancipation si on veut dire de des femmes afghanes. Alors ça, mon engagement il remonte à plus de 20 ans, hein. Donc aujourd'hui c'est vrai que ça semble, on est devant un mur et c'est dramatique, hein.
Vous avez essayé d'embaucher des personnes réfugiées aussi dans vos cuisines, je crois,
oui,
d'Afghanistan.
Oui, j'avais surtout dans ma tête, et peut-être que ça arrivera un jour, de pouvoir ouvrir peut-être un restaurant avec des femmes réfugiées. Je prends pas assez de temps. C'est vraiment pour moi, c'est ce qui sera dans ma seconde vie, tout ça. Je me suis aussi beaucoup engagée pour le cancer du sein, pour le dépistage et puis après pour les femmes malades, comment les soutenir. Chaque année, je fais des choses au moment d'Octobre Rose.
Cuisiner pour elles.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Pour les enfants aussi. Là, récemment, je viens de faire un dîner pour des enfants qui sont atteints du spectre de l'autisme. Quand les choses me parlent, en tout cas, j'essaye de m'engager. Ouais. Mais pas assez. Une fois de plus, je fais des choses, mais ça me gêne presque de qu'on en parle, parce que je trouve que je n'en fais pas assez, quoi. Je pourrais en faire beaucoup plus. Mais voilà, je me rattraperai un jour. Ouais.
Il y a un élément qui est important dans votre vie, c'est la spiritualité et votre foi chrétienne dont vous parlez aisément, parce que je crois que vous allez parfois.
Oui. La prière
est une notion qui vous est familière.
Moi, je suis toujours, j'ai toujours été persuadée que quelque part, oui, il y a un Dieu qui est là pour nous guider, pour pardonner quand on fait des bêtises et des erreurs, voilà. Et je pense que quelque part, toutes les religions l'appellent comme ils le veulent, mais qu'en fait, c'est un seul et même Dieu pour tout le monde, et voilà, et que après il est interprété différemment, et moi je respecte toutes les interprétations. Je condamne juste, quelles que soient les religions, hein, quand elles arrivent à des extrêmes, je ne peux pas comprendre ça, parce que Dieu c'est tout sauf ça, quoi, c'est tout sauf la haine, et voilà. Alors c'est vrai que moi, ma religion à moi, elle tenterait plus à être chrétienne, hein, mais moi je suis bien dans tous les lieux de culte. Je sincèrement, alors je vais plus en effet plus spontanément dans des églises, hein, mais quel que soit le lieu de culte, je me suis retrouvée tellement bien, tellement sereine dans des temples indiens par exemple. Je me sens bien partout, quoi. Je sens une espèce de spiritualité d'esprit partout, voilà. Et c'est vrai que que je vais régulièrement, en effet, me réfugier dans des lieux de culte parce que j'en éprouve le besoin, parce que je trouve que ça me recentre, c'est des moments qui me sont importants.
La cuisine, ça, il y a un côté spirituel aussi dans la cuisine. Il y a un geste, il y a quelque chose de sacré.
Moi, j'ai toujours pensé que quelque part, le métier que je fais, à travers la cuisine, c'était une forme de prière, quoi. Hein. J'ai toujours dit, je suis pas quelqu'un qui récite beaucoup de prières, etc. Mais j'ai l'impression de prier tous les jours à travers ce que je fais, quoi. À travers le bonheur, à travers la beauté qu'on peut donner aux gens, quoi. Voilà.
Il y a quelque chose de collectif, il y a un rituel, il y a un cérémonial, oui, il y a beaucoup de points communs.
C'est même pas le cérémonial autour de ça, c'est ce geste de bonté, de générosité, quoi.
Je crois que quand votre grand-mère est morte, vous avez cuisiné des tomates farcies qui étaient ce qu'elle faisait de mieux et,
ouais, parce
et c'était
que
pour vous.
Le jour de sa mort, j'étais obligée d'aller cuisiner, en effet, pour des raisons idiotes, mais moi j'étais très affectée par le départ de ma grand-mère, parce que j'étais très très proche d'elle, et il a quand même fallu, je sais même pas pourquoi je l'ai fait en plus, avec le recul, je me suis dit, mais pourquoi t'y aller, quoi, c'était n'importe quoi, et je me suis mis en cuisine, et puis voilà, il fallait cuisiner et tout, et j'ai cuisiné des tomates farcies, et longtemps après, je me suis aperçue c'était au printemps, donc, et je me suis aperçue que c'était le plat que je préférais d'elle, que voilà, donc est-ce que ça avait un rapport ou pas, mais voilà, peut-être que oui, elle était là, et qu'elle me disait, allez hop, tu vas cuisiner, tu vas bien cuisiner, et tu vas faire ça, et voilà.
Quand on cuisine, on pense souvent à nos parents, à nos grands-parents qui cuisinaient avant nous.
Oui, enfin...
Vous, c'est professionnel, donc
ouais,
c'est
voilà,
notre échelle.
Je ne sais pas si je pense à ça, moi, voilà. Ah. En tous les cas, ce que j'espère, c'est que eux, là, maintenant, ils me voient, moi, mon grand-père Jean, là, qui se dit, ah ouais, quand même, la petite, là...
Ouais, donc il y a cette spiritualité. Je reviens un tout petit peu à cette question de la prière. Je crois que vous avez un carnet aussi où vous êtes plutôt quand vous priez, vous êtes plutôt dans l'acte de remercier plutôt que de demander.
Oui, c'est vrai que tous les soirs je m'endors en disant merci. Oui, ouais. Et j'incite mes filles à le faire aussi d'ailleurs. Hein, et voilà. Ben oui, parce que voilà, je veux dire. Ouais, il faut dire merci. Alors je sais pas si à qui je dis merci, hein, mais je dis merci. Oui. Je dis merci pour la journée, merci pour ça et ça qui est arrivé. Puis ça montre que oui, c'est vrai qu'une journée, elle peut être semée de problèmes, mais elle est aussi à côté des problèmes, elle est aussi semée de plein de choses positives, des petits actes parfois sur lesquels on passe à côté et il faut se dire j'ai eu de la chance parce qu'aujourd'hui j'ai mangé une bonne tomate farcie par exemple. Voilà, et ça c'était sympa, j'ai eu ce rapport là avec celui-ci et on s'est dit ça et c'était voilà important, même si après je me suis engueulée avec un autre ou je sais, ben voilà, il y a pas que il faut savoir regarder le positif et puis essayer d'effacer le négatif.
On parle dans ce dernier épisode de notre série À Voix Nue de vos engagements, de vos valeurs, de ce qui vous anime. Je voulais qu'on parle aussi un peu d'écologie, des circuits courts en cuisine. Vous avez des établissements dans divers endroits d'Europe et au Maroc. Vous avez une attention quand même à cette question de circuit court. Par exemple, le foie gras, il n'est pas servi partout.
Ouais. Moi, j'ai été élevée comme ça. Je veux dire, le circuit court, ça, je l'ai toujours. C'est pas parce que c'est une mode. J'ai vu ça depuis toute petite. C'était tellement évident, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est assez naturel, quoi. Hein. C'est comme essayer de pas gaspiller, comme respecter les saisons. C'est quelque chose, je supporte pas qu'on mange une tomate en hiver, une salade de tomate en hiver. C'est quelque chose qui, pour moi, et c'est pas possible. On conserve de la truffe en été, c'est pas possible. C'est ma vision des choses, et voilà. Et je
donc
pense
ça s'incarne
que...
dans vos restaurants très concrètement, c'est ça?
Ah oui. Le plus possible, en tout cas. Le plus possible. En Provence, il n'y a pas de foie gras en Provence. Donc, il n'y a pas de foie gras à Londres non plus. Et en Provence, c'est le bonheur total parce qu'on a plein de petits producteurs de légumes et de fruits et de légumes même de céréales d'ailleurs qui sont là tout autour de nous, donc on y fait une cuisine qui est plutôt qui est sur le végétal, quoi, donc voilà.
Avec vos 30 ans, peut-être 30 ans, ouais, bien 35 ans même d'expérience.
35 ans.
Peut-être que ça commence dans début des années 90. Est-ce que vous avez vu le goût du public changer, le goût des clients, les attentes des clients?
Oui, je pense que quand même, justement, par rapport à cette durabilité, on est de plus en plus responsable, ça c'est clair. Je pense que tout le monde a pris conscience qu'aujourd'hui, il fallait respecter quand même. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, mais nos clients, en tout cas, oui, comprennent ce discours de durabilité, de respect de l'environnement, ça c'est clair. Et puis les goûts, oui, bien sûr, ils ont aussi beaucoup
moins salé, moins sucré, ce genre de choses.
Ouais, moins salé, moins sucré, moins riche. Ce tournant-là, il s'était déjà fait, je pense, dans les années 70-80, avec tout ce mouvement qu'on appelait la nouvelle cuisine, initié entre autres par Michel Guérard. Donc ça d'alléger, ça s'était déjà bien amorcé. Enfin moi j'ai toujours un peu connu ça, mais moi j'ai commencé à cuisiner comment on appelait ce mouvement initié par Ferran Adria.
La cuisine moléculaire.
La cuisine moléculaire. Voilà, moi je suis arrivée en plein dans ces années-là, quoi. Hein. Donc ça c'est.
Là pour le coup, on est dans quelque chose de cérébral et de plus masculin.
Oui, auquel moi je
vous n'avez pas souscrit à ça.
Non. Pas du tout, que j'ai regardé avec intérêt, pas avec curiosité, on va dire, en tout cas, hein, mais moi je suis arrivée dans ce moment-là. Bah après, ça, vous voyez, on est revenu quand même à des choses.
Les gens sont tombés malades en mangeant de la cuisine moléculaire.
Ouais, ça, enfin, je sais pas. Autres. Bon, parce que vous savez, on peut tomber malade en mangeant aussi, on peut tomber malade en mangeant aussi quelque de la cuisine, voilà, hein, en tout cas, c'était curieux, c'était intéressant à observer, mais oui, moi c'est pas quelque chose qui m'a parlé tout de suite, mais en tous les cas c'est quelque chose qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup oublié.
D'accord.
pour revenir à des choses beaucoup plus authentiques.
Il y a eu la vogue de la bistronomie, enfin il y a des mots qui
sont
apparus.
Oui, bien sûr, ouais, la bistronomie, ce mélange entre le bistrot et la gastronomie, et oui, il y a des mouvements qui ont un peu désacralisé notre métier aussi, c'est vrai que
désacralisé.
Ouais, alors pas le métier, mais en tous les cas les restaurants étoilés, quoi. C'est vrai que il y avait quand même une certaine réticence à entrer dans un restaurant étoilé, et je trouve que on y vient beaucoup plus à l'aise, on y vient beaucoup plus. Certains rituels sont peut-être aussi tombés. Et, en tous les cas,
certains rituels, ça reste quand même assez cérémoniel. Manger dans un
cérémonial, je sais pas si c'est cérémonial, mais oui, il y a
une qualité de service, il y a une ambiance.
Oui, bien sûr, mais il y a quand même aussi maintenant une espèce de rapport beaucoup plus
moins guindé,
moins plus naturel, plus je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont et même la cuisine elle-même gastronomique qui pouvait sembler inatteignable, un peu trop compliquée, machin, enfin voilà, je pense que notamment grâce à la télévision, certains a priori sont tombés, c'est clair. Mmh. Ouais. Mmh.
L'image des chefs a beaucoup changé, effectivement, on va parler de la télévision, une cohorte de jeunes chefs et chefs-feux sont arrivés, il y a Instagram, il y a les chefs qui ont des tatouages, enfin, il y a toute une imagerie du chef qui est très différente du chef avec la toque de quand vous avez commencé.
Oui, ça c'est sûr, mais bon, ça c'est la société qui évolue. Les chefs tatoués, ils sont tatoués, mais il y a tellement de... Enfin voilà, tout le monde aujourd'hui est tatoué, donc je veux dire, c'est une mode, quoi, c'est une tendance, donc pourquoi les chefs n'iraient pas sur la tendance, c'est pas... Voilà, donc...
C'est aussi un métier d'image et de communication. Vous en avez besoin pour remplir les restaurants.
Ah oui, c'est évident qu'il y a besoin de communication, mais comme
dans tous les métiers.
Tous les métiers, moi j'aime pas dire qu'on fait un métier d'artiste, mais en tous les cas, on fait un métier où on est sur le devant de la scène, ça c'est sûr. Donc la communication, il y en a besoin, ça c'est clair.
En termes de communication, donc il vous est arrivé quelque chose il y a bientôt 10 ans, l'émission Top Chef.
Il y a plus que de 10 ans, hein, si vrai. Là, je vais commencer ma 12e année, je crois.
12e année déjà. L'émission Top Chef vous a contacté à ce moment-là et vous n'étiez pas trop partante au départ pour rejoindre l'équipe des jurés.
Parce c'est que pas que j'étais c'était... pas trop partante, c'est que c'était Top Chef est arrivé à l'époque où moi je vivais en Angleterre, à Londres.
D'accord.
Donc je connaissais pas Top Chef en France. J'avais participé une ou deux fois à celle à Londres, quoi. Hein, mais je connaissais pas celle-là en France. Et puis moi je suis quelqu'un qui regarde pas trop la télé, donc voilà. Donc je connaissais pas. Donc c'est vrai que quand ils sont venus pour la première fois, quand je les ai rencontrés pour la première fois, j'ai d'abord voulu comprendre. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et donc, on m'a fait visionner deux ou trois émissions. Et voilà. Et c'est vrai qu'au départ, les cinq premières années, puisqu'il y a eu cinq années sur lesquelles j'ai pas participé, les cinq premières années, c'est vrai que le cuisinier, enfin, le juré, voilà, n'était là que pour être juré. C'était que pour sanctionner ou enfin pour n'était là que pour juger, en fait, voilà, c'est ça. Et moi je chaque fois qu'on m'a demandé d'ailleurs d'être membre d'un jury de concours culinaire, j'ai toujours dit non, parce que j'aime pas ce rôle là et je toujours peut-être mon problème de légitimité aussi par rapport à la technique, je m'en sentais pas capable, je m'en sentais pas le droit, en tout cas, de
parce que vous n'avez pas fait d'école.
Parce que voilà, toujours pareil, parce que je maîtrisais pas bien la technique, etc. Donc là sincèrement, ça me le fait d'être voilà d'être là pour
juste
jouer
pour
ce rôle de cuisinier de
sanction
et de voilà ça voilà, et justement ils m'ont dit ben on veut changer, on veut aller justement vers un cuisinier qui transmet, qui a donc là ça a commencé à j'ai commencé à me dire ben OK, oui, pourquoi pas, et puis voilà, et puis après ben Top Chef a évolué comme on le connaît aujourd'hui, où on est en effet dans la transmission, dans le partage, dans essayer d'aller chercher le meilleur du candidat pour le dévoiler, et c'est super.
Et ça vous plaît toujours beaucoup, je crois.
Bah oui, parce que sinon j'aurais arrêté, voilà. Hein, sinon j'aurais arrêté. Ouais, ça me plaît parce que bah Top Chef, c'est une grande famille, quoi. Hein.
Encore une famille.
Mais c'est vrai que Top Chef, que ce soit déjà avec mes collègues, voilà, on s'entend super bien, on rigole beaucoup, c'est vraiment des bons moments d'amitié. Ensuite, il y a toute la production qui maintenant est voilà, est devenue qui ne change. Enfin, je veux dire, les équipes sont quasiment les mêmes qu'au début parce que voilà, c'est vraiment une très très bonne ambiance et on n'a pas envie d'en partir, voilà, c'est, et puis après il y a ces candidats qui avec qui on tisse des liens juste incroyables, voilà, et puis moi je dis c'est toujours une parenthèse de deux mois pendant le tournage dans ma vie de tous les jours de cuisinière de tous les jours, et alors c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, parce qu'en même temps, il faut continuer à travailler ailleurs. Mais ça n'empêche que c'est une espèce de bouffée d'air frais là, qui arrive chaque année quand on commence à tourner.
Et ça a vraiment contribué à votre notoriété encore plus.
Ah ben oui, ça c'est sûr que par la télé, c'est une visibilité juste incroyable, quoi. Hein. Ça c'est vrai que... Voilà, c'est
on vous reconnaît dans la rue, on vous arrête de temps en temps.
Oui,
quand même.
Ouais. Voilà. Oui, ça c'est il faut l'accepter, ouais.
Et vous donnez envie de plus en plus de jeunes gens de
ça
de
je
faire
l'espère
ces métiers.
Ça je l'espère, j'espère qu'en effet on leur montre que c'est possible, nous les membres du jury, mais aussi les candidats, quoi, voilà, tout est possible. Avec beaucoup de travail, voilà.
Ça n'a pas changé. Quel regard vous portez sur la scène parisienne des restaurants aujourd'hui? Il y a des tables.
Moi, je trouve qu'elle a énormément évolué, émerge. Cette scène parisienne, parce que moi, quand je suis partie à Londres, il y a maintenant 17-18 ans, je trouvais que Londres avait eu une énergie et puis une diversité sur sa scène gastronomique juste incroyable, quoi. Hein. Et je me disais, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'on fait en France? Et voilà. et puis bah, Paris s'est réveillé d'une façon exemplaire et joyeuse et avec beaucoup d'ouverture sur le reste de
du
on
monde.
Était très franco-français quoi hein, mais et aujourd'hui on a une espèce d'ouverture voilà mais il faut pas oublier de rester franco-français parce qu'il faut quand même être fier de notre cuisine et de ce qu'on sait et de du modèle qu'on a toujours été et qu'on restera je pense hein, au niveau international pour la cuisine.
Quelles sont les cuisines du monde qui vous inspirent, vous qui
voyagez
beaucoup ?
Moi, je suis curieuse de tout. Alors moi, j'aime tout et je suis curieuse de tout. J'ai pour des raisons qu'on a déjà évoquées, j'ai beaucoup d'amour et de goût pour la cuisine italienne. J'adore la cuisine au Japon. Je suis très curieuse de tout ce qui se passe en Amérique du Sud aussi. Mais je suis curieuse de tout. Il y a qu'une cuisine que j'aime pas trop. C'est la cuisine. Alors ça va surprendre parce que je sais qu'elle est très appréciée. Mais c'est pas que je l'apprécie pas, mais je sais pas pourquoi je la digère pas. C'est la cuisine chinoise. voilà.
Et vous retournez régulièrement dans le sud-ouest, au Pays Basque.
Ah oui, bien sûr, ça c'est sûr.
Là-bas aussi, ça bouge.
Incroyable, incroyable. Et c'est pas vrai, c'est pareil. Hein, ça bougeait beaucoup du côté espagnol, et ça a eu un peu plus, ça a mis un peu plus de temps à se réveiller côté français, mais maintenant il y a une scène culinaire au Pays Basque qui est juste incroyable. Ouais.
Hélène Darroze, il y a quelqu'un, je crois que vous aimiez, qui était un cuisinier qui s'appelait Alain Chapelle, qui a écrit un livre.
Alors,
je sais pas si vous l'avez connu.
Non, moi je l'ai pas connu. Moi, la personne qui a toujours été un exemple pour moi, presque un mentor, même si j'ai jamais travaillé avec lui, c'était Michel Guérard, surtout.
Qui était donc de votre région.
Oui, j'ai grandi à côté de lui. Moi, son restaurant était à 30 kilomètres du restaurant familial. Donc, depuis toute petite, je le connaissais. Et, c'est un monsieur qui m'a beaucoup apporté dans chaque fois que je l'ai croisé très souvent dans ma vie. J'allais le voir une fois par an. Donc, c'était.
Il avait un 3 étoiles là-bas.
Oui, un restaurant 3 étoiles. À Eugénie-les-Bains. Donc c'était lui vraiment mon Alain Chapelle. Non, je l'ai jamais connu. J'ai beaucoup aimé son livre. J'en ai beaucoup entendu parler par Alain Ducasse. Hein.
D'accord.
Voilà. Mais moi, la personne qui m'a vraiment marqué et qui me manque énormément d'ailleurs, c'est Michel Guérard.
Je reviens à Alain Chapelle à cause du titre de son livre. La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes.
Ben voilà, tout est dit.
c'est quoi la cuisine alors pour vous?
La cuisine, c'est d'abord un produit. Ça, on sera jamais un bon cuisinier sans un bon produit. Donc c'est d'abord un produit, et puis après, ben c'est ce que j'ai essayé de dire tous ces derniers jours. C'est de l'émotion. C'est donner de l'émotion. C'est de l'émotion. C'est donner un souvenir. Il y a rien de. Pour moi, il y a le plus beau des compliments, c'est quand quelques années plus tard, on me parle d'un plat qu'on a mangé chez moi. C'est beaucoup de don de soi, la cuisine. C'est donner de soi-même. C'est aller chercher au profond de soi-même ce qu'on a envie de dire.
Et quand vous ne serez plus cuisinière, qu'est-ce que vous ferez ?
Je continuerai à cuisiner. Pour mes proches, ça c'est sûr, je ne pourrai jamais ne pas cuisiner, recevoir, partager autour de tout ça. Je pense que quand je prendrai un peu de recul sur le métier lui-même, et ça risque de se passer plus tôt qu'on ne le croit, parce que moi dans ma tête je serai pas à 75 ans derrière un piano, hein, ça c'est clair.
Ça c'est nouveau, parce que les grands chefs d'autrefois aussi restaient longtemps.
Oui, c'est vrai.
Mourir sur scène.
Ouais, bon, ça ce sera pas mon cas, je vous le dis. Je pense que je reprendrai l'écriture parce que
vous aimez écrire, vous.
Voilà, moi j'aime écrire. C'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de livres. Moi, vous disiez qu'il y avait pas mal de livres. Non, j'en ai pas fait beaucoup.
Petite
parce
dizaine.
Que. Non.
Ah non.
Non, 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 non. Non, non, j'ai pas fait beaucoup de livres parce que moi je veux les écrire quoi, donc j'ai pas le temps.
Et vous voulez écrire de la littérature, des histoires. Je sais que vous aimez beaucoup Le Petit Prince, mais vous aimez
ouais, moi,
raconter.
J'aime beaucoup lire, je lis beaucoup moi. Oui, oui, moi j'aime raconter des recettes à travers une histoire, donc j'espère pouvoir me remettre à ça. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ferai beaucoup d'humanitaire aussi, j'espère. Enfin, en tout cas, Et je pense que aujourd'hui mon rêve en tous les cas, bon, ce sera d'avoir ma maison au Pays Basque, mais je pourrai jamais me passer de Paris, je pense, parce que maintenant je suis aussi parisienne, j'ai vécu plus à Paris que dans les Landes aujourd'hui, hein, donc je pense que j'aurai toujours quand même des attaches et un pied à terre à Paris, et ma foi, je me vois aussi quand même passer un peu de temps au Maroc, parce que je suis vraiment tombée sous le charme et du Maroc, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je m'imagine, à travers l'écriture, l'humanitaire et dans des lieux que j'aime. Voyager aussi, j'ai pas le temps de voyager, donc.
Vous voyagez sur Instagram, vous avez quand même beaucoup de followers, vous utilisez aussi beaucoup Instagram.
Oui,
et vous découvrez beaucoup la culture du monde.
Ouais, je l'utilise de moins en moins, c'est parce que ça demande du temps et c'est vrai que
Mais on peut vous suivre dans vos voyages.
Oui, 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 j'essaye de faire voyager les gens quand je peux, ouais.
Qu'est-ce que vous allez manger ce soir, vous savez?
Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Non, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi. Autant je réfléchis à mes menus le week-end, autant le soir, en semaine comme ça, c'est la dame de la maison qui me prépare toujours un petit truc, quelque chose de léger. De toute façon, en général, une salade, une soupe. Et le soir, c'est léger.
Et si vous alliez dîner chez Marsan ce soir, qu'est-ce que vous mangeriez?
On est en pleine saison des cèpes, là. Donc, à Marsan, je mangerai, on fait un carpaccio de cèpes en ce moment, avec un mélange de cèpes aussi fermentés, légèrement vinaigrés aussi, et des cèpes et des morceaux de cèpes à peine rôtis, et une sauce vin jaune, donc je pourrais manger ça. Je pourrais manger ce qu'on appelle les cocos de chasse au Pays Basque. Voilà, c'est les bajoux du merlu qu'on cuisine au Pays Basque, qui est un peu le solilès de la volaille, quoi. Je pourrais manger ça avec une sauce pil-pil. Je pourrais manger une volaille jaune des Landes qui est cuisinée, on en a parlé, avec le fameux escautoun, parce que c'est l'époque un peu du maïs doux frais. Donc, mélange d'escautoun et de maïs grillé. Voilà, je pourrais finir par un baba imbibé d'armagnac. Il y a plein de...
Avec de l'armagnac.
Ah ben oui. Avec de l'armagnac.
L'armagnac
de mon papa et de mon frère. Ouais. Bien sûr.
Merci beaucoup Hélène Darroze pour cette série d'entretiens.
Bah, merci à vous, c'était un plaisir.
Votre temps, votre générosité et tout ce que vous nous avez dit. Merci.
Merci. Merci à vous.
C'était À voix nue avec Hélène Darroze, réalisation Marie-Laure Ciboulet, prise de son Hervé Dubreuil, chargée de programme À voix nue Daphné Abgraal. Une série de Julien Teff disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.